13h, 14h, vous êtes tous cet été. Sébastien Krebs sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi pour vous emmener à nouveau en balade jusqu'à 14h chaque samedi. Nous visitons ensemble les régions de vos vacances, nous les explorons grâce aux reporters d'Europe 1 qui ont promené leur micro à la découverte de trésors cachés, du caractère des régions, de leur patrimoine et de leur gastronomie. Nous avons fait le tour de France tout au long de l'été. Ce samedi, c'est la dernière. Après la mer, la montagne, la campagne, nous finissons vraiment en beauté cette semaine. Direction la Corse avec 5 étapes, 5 lieux très différents. Au programme, une sublime rando loin des touristes, une rencontre en montagne avec les derniers bergers. Nous irons aussi sur les traces de Napoléon et nous plongerons même en mer à plus de 50 mètres de profondeur à la recherche d'un trésor. Vous êtes prêts? C'est parti, le voyage commence maintenant. Bienvenue.
Europe 1, vous êtes où cet été?
Bonjour Romane Hoquet.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On vous retrouve en ligne depuis la Corse. C'est vous qui avez parcouru ces routes corses tout au long de la semaine. Elles sont sinueuses, les routes corses. Non, ça vous a plu ce voyage?
Oui, c'était vraiment une expérience marquante. L'île de beauté, la Corse, on m'en avait parlé depuis des années, je n'y étais jamais allée. Et là, autant vous dire que j'ai vraiment été gâtée. Les paysages étaient très différents, on va le découvrir pendant l'émission. Et ça restera vraiment une très très belle expérience.
Avec des routes qui réservent des paysages absolument fabuleux à chaque virage. On va commencer avec votre première étape. Vous avez commencé tout au nord de la Corse, direction le Cap Corse, sur un sentier absolument fabuleux. On réécoute votre reportage.
Vous les entendez, le bruit des vagues qui glissent sur le sable et rien que le bruit des vagues. Devant moi, une plage et surtout, surtout, aucun vacancier à l'horizon.
Aucun vacancier en Corse en plein mois d'août, là vraiment, je vous crois pas.
Et pourtant, Sébastien, c'est bien vrai parce que ce matin, je suis sur la plage de Tolaré, à la pointe nord de l'île. Bienvenue au Cap Corse, l'île dans l'île, comme l'appellent ses habitants. Alors, pour comprendre, enfilez vos baskets parce que ce matin, cette plage, c'est le point de départ de notre randonnée sur le sentier des douaniers qui longe une partie du littoral. Jérémy sera notre guide pour la balade.
Donc là, on s'embarque pour combien de temps de marche là?
Alors, on va dire 4 heures. 4 heures, c'est le temps qu'on met en général.
Qu'est-ce qui fait qu'ici, c'est particulier?
C'est inexplicable. Mon attachement, c'est clairement sauvage. Aujourd'hui, tu le vois, là, on est au max du monde.
Et il n'y en a pas beaucoup.
Reviens l'hiver un jour et tu comprendras pourquoi je l'aime, cet endroit.
Alors, même en plein été, je vous assure, la tranquillité du lieu est préservée. Imaginez un sentier entouré par la nature. D'un côté, le maquis, les senteurs des plantes. Derrière vous, aucune construction, seulement les montagnes. Et à quelques mètres, cette eau translucide à perte de vue, en contrebas du chemin. Evelyne et Geneviève, deux amies en vacances, nous accompagnent sous le charme.
Le soleil qui reflète dans la mer, là, justement, comme de l'or, de l'argent, la couleur, c'est très beau, quoi.
Ces cailloux comme ça qui se reflètent, là, voilà, elle est limpide, ça te donne envie d'y aller.
On a le sentiment qu'on est un peu au bout du monde ici, quoi.
Ouais, c'est superbe, c'est reposant, c'est le paradis, là, hein. Non ?
Waouh, ça fait rêver, Romane.
Oui, c'est vraiment le paradis, elle a raison, Evelyne, mais il y a aussi des rencontres plutôt inattendues.
Et voilà. Elles sont là, les copines. C'est une belle vache corse, oui. C'est une vache rustique.
Elle monte les rochers mieux que nous.
Je lui ai parlé en corse, je lui ai dit « Co, là, ça veut dire monte », et bien elle est montée, voilà. Hein.
C'est une vache qui parle que le corse.
Apparemment, c'est une vache qui parle corse.
Et oui, c'est obligatoire là-bas. En tout cas, nous poursuivons notre marche, les heures passent, et nous ne croisons pas plus d'une dizaine de personnes, parce que vraiment, je vous l'assure, le sentier des douaniers, à vrai dire, c'est une aventure qui se mérite.
Voilà, on grimpe, le soleil commence à être bien haut et ça tire encore sur les mollets là.
Bonjour messieurs dames.
Vous venez d'où là?
De Massinaja.
Ouais, vous avez fait le plus gros alors?
On a fait le plus gros, déjà ce qui est réconfortant c'est qu'on voit le bout là. Surtout que là on a passé le plus dur, on a passé la grosse montée là.
Ah, il y a encore une montée après?
Ça va.
C'est pas le tout de faire la fête et de bronzer la journée. Enfin d'ailleurs que vous voyez je serais bronzé. Mais non, c'est un peu d'effort.
Merci, bonne journée à vous.
Au revoir.
Bon, au bout d'un moment, je dois vous le dire, j'ai dû me rendre à l'évidence, le sentier est trop escarpé. Je range mon micro et j'opte pour les bâtons de marche. Une bonne dizaine de kilomètres et trois bouteilles d'eau plus tard, notre ligne d'arrivée, enfin, le village de Massinaja, avec l'accent rien que pour vous, Sébastien.
Massinaja, pas mal, bien joué, je vois que vous avez bossé. Bon, 10 kilomètres quand même avec cette chaleur, comment ça s'est passé?
Alors pour le retour, à vrai dire, beaucoup moins sportif, mais beaucoup plus frais puisque j'ai pris le bateau. C'était l'occasion pour moi justement de découvrir la réserve naturelle des îles du Cap Corse, un sanctuaire pour 500 couples d'oiseaux, goélands, cormorans, pupins cendrés. Alors on embarque avec Alain Camoin, le conservateur de la réserve.
Là, on arrive sur la réserve naturelle intégrale. Là, il y a deux canoës qui sont en train d'approcher. On se rapproche entre eux, ils risquent de faire envoler un oiseau. Donc là, on va aller leur faire un petit peu d'information.
La réserve naturelle, monsieur.
Pas de baignade à moins de 200 mètres. J'ai le sentiment d'avoir rempli ma mission, de faire ce qu'il faut. D'avoir fait ce qu'il faut parce que moi, je suis plus très loin de la retraite. Nous, espace mer géré par l'Office de l'environnement, représente un endroit sur le Crabe Corse qui, à mon avis, est préservé pour l'éternité.
Et même après 32 ans à arpenter le Cap Corse, sa plus grande satisfaction reste de voir, il me l'a dit, chaque année, les jeunes oiseaux quitter le nid.
Voilà pour ce reportage sur le sentier des douaniers. Roman, ça a l'air exceptionnel comme paysage.
Oui, c'était vraiment un site très préservé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. D'ailleurs, on l'entend pendant le reportage, on a vraiment croisé très très peu de monde. Donc c'était un peu une matinée hors du temps, cette randonnée.
Avec un sentier quand même escarpé, on sent qu'à un moment, vous rangez le micro et ça devient trop compliqué là.
Oui, exactement. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Je pense que j'ai un petit peu sous-estimé mes capacités physiques. En plus, c'était la première randonnée de la semaine. Donc disons que je n'étais pas encore tout à fait échauffée.
Et les touristes ? C'est plutôt des gens habitués de la rando, où il y a beaucoup de passages l'été.
Alors justement, c'est l'avantage de cet endroit, c'est que même en plein été, j'y étais en plein mois d'août, il y avait quand même assez peu de monde. Et c'est vrai que c'est quand même un public, on va dire, de randonneurs chevronnés, surtout des couples, etc. Et souvent des habitués du lieu, hein, des gens qui connaissent ces endroits un petit peu secrets et qui y reviennent plusieurs années d'affilée.
Et vous avez suivi le conservateur du littoral qui alerte quand même sur la préservation de tout cet environnement.
Oui, exactement. J'ai suivi Alain Camoin, qui est donc le conservateur de la réserve naturelle. Et c'est vrai que l'été, en fait, il s'occupe plus des touristes que des oiseaux, parce que les oiseaux ont migré en fait à cette période de l'année. Parce que même si l'endroit reste préservé, pour vous donner une idée, le sentier des douaniers, c'est quand même 40 000 passages par an. Donc on n'est quand même pas non plus seul au monde. C'est pour ça qu'Alain Camoin fait à peu près une dizaine de sorties par jour avec son bateau pour surveiller les îlots de la réserve naturelle.
Et pour préserver que les oiseaux ne sont pas non plus perturbés par la présence des bateaux et des touristes. Voilà pour ce reportage. Première étape donc de notre voyage aujourd'hui sur le Cap Corse au nord de l'île. Vous restez avec nous, Roman. Dans un instant, direction la montagne, on va prendre de la hauteur et de l'altitude pour votre deuxième étape. À tout de suite.
Europe 1, vous êtes où cet été ?
Et nous poursuivons ce samedi notre voyage à travers la Corse avec Roman Hoquet. Vous êtes toujours là, Roman ?
Oui, bien sûr.
Après le Cap Corse, vous avez pris la route. C'était mardi matin sur Europe 1 et on vous a suivi dans la montagne Corse. Vous avez pris l'altitude et on va faire des rencontres magnifiques avec vous. On vous suit, on réécoute votre reportage.
Sébastien, ce matin, on va prendre un peu d'altitude, direction le centre de la Corse, dans la région du Nioulou. Un monde clos, parsemé de villages, entouré par les plus hauts sommets de l'île, qui culminent à plus de 2700 mètres. Alors, pour y parvenir, je me suis vraiment accrochée à mon volant. Une très belle route de montagne, avec pour seul horizon des dizaines d'aiguilles rocheuses et aussi quelques cochons qui déambulent en liberté.
Voilà, le Nioulou, on entend déjà les cloches derrière vous. Quelle est la particularité de cette région ?
Et oui, le Nioulou, c'est justement une terre de bergers, des bergers qui transhument de la plaine à la montagne, de la montagne à la plaine. La tradition perdure, il serait une petite dizaine encore d'après les anciens. Parmi eux, Jean-François, 25 ans, loin, très loin du cliché du berger corse avec son piloni, la cape traditionnelle en poil de chèvre. Non, là, c'est en jean et t-shirt qu'il s'occupe de ses 60 brebis.
Mais là, on descend la bergerie, on va créer. C'est un temps de cloche, tu vois. Je traîne à la main, je traîne comme ça, à l'air libre, le soleil en face, c'est les montagnes bleues, moi je reste tranquille. C'est la poésie de la vie, ça.
Est-ce que je pourrais essayer ?
Bien sûr.
Il y a un tout petit filet qui sort.
Il faut pas avoir peur de presser. Hein.
Et là, je fais le bon geste ?
Plus ou moins. Plus ou moins. C'est un peu difficile au début.
Et t'étais aussi nul que moi quand t'as commencé ou pas ?
Non, je pense qu'il y avait déjà, quelque chose dans le sang.
Pour ma défense justement, je tiens à me défendre, la brebis corse, je peux vous l'assurer, elle n'est pas du genre à se laisser faire. Et puis Jean-François, lui, ça fait quand même 6 ans qu'il s'est installé. Aujourd'hui, il s'occupe seul de son troupeau, il fabrique du fromage frais, de la tomme et le fameux brooch, tout ça 7 jours sur 7.
jamais stressé. J'ai pas le temps, je sais pas ce que c'est. Je suis toujours avec mes brebis. Ça me reconnecte avec le passé et mes racines. Et le rapport avec le village, avec les anciens, tu vois, tout ça. C'est les mêmes gestes. La façon de traire, de faire le fromage. On parle pas en siècle, mais en milliers d'années, là.
Ouais, c'est un vrai savoir-faire, hein. Roman, on a vu que pour vous, la traite, ça demandait encore un peu de pratique. Où est-ce qu'il a appris, lui ?
Alors, pour vous répondre, il faut marcher quelques kilomètres vers le village de Korcha, de l'autre côté du lac. C'est là-bas que vit Lucie, 77 ans, Lucie Santucci.
Santucci.
Ah, d'accord. Enfin, ah, faut que je travaille un peu mon accent corse, je suis pas encore totalement en
forme. C'est pour ça que je le
Santucci.
Voilà, toi, et même très bien.
Donc c'est vous qui avez montré un peu le métier à Jean-François, vous pensez ?
Bien sûr, oui. Mmh. Après, on lui a appris à faire le fromage, la brousse.
Parce que du coup, vous aviez une bergerie avant ? Racontez-moi un peu.
Si. Mon père. Son père était berger, mon père était berger et mon frère, il a pris la suite. Je crois qu'il y avait 8000 brebis. Hein.
Dans le village ?
Dans le village, oui. Bah, tout le monde était berger. Hein. Après, non, les petits-enfants, c'est autre chose. Ils ont pris autre direction. Si, qui s'est marié sur le continent, ils ne viennent plus. Hein.
C'est plus un endroit où ils viennent vivre.
Ils se meurent. Le village se meurt. Il n'y a que Jean-François qui a pris la suite.
C'est un bon berger ?
Il est jeune, hein. Ça va rentrer tout doucement. Hein. C'est en vieillissant qu'on fait les bonnes choses, non ?
Ah, elle a bien raison, Lucie. Même si du haut de ses 25 ans, Jean-François s'en sort déjà très bien. Et ce n'est pas moi qui le dis, non, mais des touristes de passage qui ont eu droit à une dégustation. L'oncle de Jean-François se charge des présentations.
Ah, ça c'est du fromage, c'est de la tome, qui est faite dorénavant dans la vallée du Niol par mon neveu, qui est berger.
Bon, vous voulez goûter ?
Allez, hop.
Il est fruité, très frais, un peu comme une tome de Savoie, mais pas avec sa fermeté. C'est très très bon.
Contrairement à d'autres fromages très forts qu'on a pu goûter, là au petit-déj, c'est pas mal.
Un petit goût de brebis sympa.
Il irait bien avec un vin rouge. Mais à ce là, ça va être difficile.
Oui, je vous confirme, il est peut-être encore un peu tôt. Je vous conseille plutôt une petite confiture de figues. En tout cas, les fromages du Niolou ont encore de beaux jours devant eux. Le retour à la terre, aux traditions, suscite de plus en plus de vocations. 60 nouveaux éleveurs s'installent en Haute-Corse chaque année.
Voilà pour ces éleveurs et ces producteurs de fromages qui perpétuent hein, ce savoir-faire. C'est bien, Roman, que des jeunes, quand même, continuent de s'installer comme bergers dans ce coin perdu.
Oui, exactement. Jean-François faisait vraiment la fierté de sa famille. Ils étaient tous très attachés aux traditions et très heureux que quelqu'un puisse prendre la relève.
Il est bon, ce fromage, vous l'avez goûté ?
Oui, bien sûr, je l'ai goûté, et pas qu'un peu. J'ai même goûté des spécialités. C'était des petits beignets au fromage frais, parce qu'il faut savoir que Jean-François cuisine aussi très bien, en plus de très bien s'occuper de ses brebis. Et c'était vraiment délicieux.
Les beignets au brooch, c'est ça ?
Voilà, exactement, c'est ça. Un délice.
En tout cas, ces paysages sont complètement isolés. Là, j'imagine qu'on est très très loin de la Corse touristique.
Ah, ça, je vous le confirme. Vraiment, on n'arrive pas dans le Niolou par hasard. Déjà, la route, c'est vraiment la route corse comme on peut se l'imaginer. Ouais. Étroite, escarpée, au ras du vide. Autant vous dire que j'ai eu quelques sueurs froides. Et sans parler du fait que là-bas, il n'y a pratiquement pas de réseau. C'était d'ailleurs un des reportages les plus difficiles à organiser. Jean-François, le berger que j'ai rencontré, il me rappelait parfois 3-4 jours après parce qu'il n'y avait vraiment aucun réseau dans cette région-là.
Il y a plus de brebis que d'habitants ?
Alors justement, ça augmente un petit peu, mais pour l'instant, non, il y a quand même un petit peu plus de monde. Quoique, l'hiver, c'est peut-être le cas parce qu'il faut savoir que la région se vide. Tous les habitants redescendent sur la côte parce qu'il fait très froid et il y a de la neige dans le Niolou en hiver. Donc peut-être que là, oui, il y a plus de brebis que d'habitants.
Oui, parce qu'on est quand même à 2700 mètres d'altitude.
Alors, 2700 mètres, c'est la hauteur des sommets qui entourent cette région. Le Niolou en tant que tel, on est plus à 900 mètres d'altitude.
Voilà, avec ces brebis, ce fromage et vous le disiez, ces cochons sauvages qu'on peut croiser des fois.
Exactement,
sur la route.
Exactement, il faut faire très attention sur la route. Exactement.
Voilà pour cette deuxième étape donc dans les montagnes du Niolou en Corse avec vous, Roman. Ok, on va continuer le voyage. Dans un instant, on va retrouver un peu la ville, direction Ajaccio. Dans un instant, suite de notre voyage en Corse sur Europe 1.
Europe 1. Vous êtes où cet été ?
Et nous poursuivons notre voyage ce samedi à travers l'île de Beauté, direction la Corse, jusqu'à 14h sur Europe 1. Troisième étape à présent avec vous, Romain Oquet. C'était mercredi, vous êtes redescendu de vos montagnes et vous êtes arrivé à Ajaccio. Ajaccio, capitale de Napoléon. On réécoute votre reportage.
Je vous invite à un petit voyage dans le temps, Sébastien. Nous sommes le 1er décembre 1805, pas très loin d'Austerlitz. Les soldats de Napoléon se préparent pour une bataille décisive. Et tout ça sur la table du salon de Frédéric, qui travaille sur une maquette un peu spéciale.
J'ai préparé les Playmobil, donc essentiellement des grenadiers. Donc même avec un Playmobil qu'on pourrait considérer comme pièce au rebut, si vous le repeignez bien, ben voilà, il arrivera à ressembler à ça. Là, on voit qu'il a été peint.
Et voilà, Sébastien, une redingote en papier, des uniformes en peinture. Et Frédéric transforme vos vieux Playmobil en soldat, capitaine, sergent napoléonien. Certains auront même un destin extraordinaire.
Celui-ci qui risque de devenir Napoléon, enfin qui l'est déjà, je vais enlever l'élément de sticker Playmobil.
Avec un feutre.
Oui, c'est un feutre indélébile. Donc je recouvre la surface.
C'est pas rien d'être le Playmobil choisi pour Napoléon. Ah, vous oui. Le choisissez avec soin.
C'est la terrible loi du hasard ou du sort. Un Playmobil devient Napoléon parmi les autres. C'est vrai, c'est une bonne remarque. Ouais, celui-là, il est. Mais c'est vrai que peut-être entre eux, comme dans une nuit au musée, vous savez, la nuit, les Playmobil se réveillent, ils se mettent en mouvement et il y en a qui disent pourquoi on t'a choisi toi, pourquoi pas moi. Voilà.
Alors pour cette maquette, encore une dizaine d'heures de travail et aucune improvisation. Frédéric fait même fondre les bras de ses petits Napoléons pour les présenter avec une main dans le gilet. Vous savez,
ah oui.
La posture que l'on
bien
connaît
sûr.
Tous. Il a déjà créé un millier de personnages qui, comme le vrai Napoléon, ont aussi leur musée, le Naporama.
Alors Napoléon en Playmobil, on est vraiment chez les fans. Là. C'est où ce Naporama ?
À Ajaccio, évidemment, Sébastien, la ville de naissance du plus célèbre de tous les Corses. Alors venez, on va aller y faire un petit tour.
Voilà, l'ouverture du Naporama, dans les formes, les grandes portes.
Avec un beau rideau rouge impérial.
Oui, oui. Rideau rouge. On met le grand Napoléon.
Alors là, Sébastien, il faut imaginer une vingtaine de maquettes avec des armées de Playmobil. Là, ils sont sur un bateau lors du siège de Toulon, d'autres sur des pyramides en papier mâché pour la campagne d'Égypte ou sous la neige dans les Alpes. Frédéric, baguette à la main, mène la visite.
Le 9 mai 1769 a lieu la bataille de Pontenove en Haute-Corse.
Oui, je vois, pour les questions.
Oui.
Vas-y, dis-moi.
J'ai rien compris.
Qu'est-ce que t'as pas compris ?
Tout.
Ils sont où les Français là ? Non, c'est les Corses là. Regarde. Ouh là là, Martin, vous lui avez donné un petit déjeuner ce matin, Martin là ?
Mais on le comprend, Martin, avec tous ces petits personnages sous les yeux, vraiment, c'était difficile de rester concentré. Marianne, elle, est bouche bée.
Merci.
Félicitations en tout cas.
Merci.
J'ai scotché. Les scènes, quoi, c'est un travail de dingue. Magique.
Bon, il n'y a pas la défaite de Waterloo là.
Mais on leur en veut pas. Hein. On peut comprendre.
C'était impressionnant et instructif.
Qu'est-ce que vous avez retenu alors ?
Ah,
bon, justement, on va laisser Emmanuel réviser encore un peu, parce qu'en 20 minutes de visite, on retrace quand même 30 ans de bataille. Alors du coup, Sébastien, pour se remettre de cette visite, je vous propose de faire une petite pause dans la pâtisserie de Pascal.
Alors on vous suit, Romane, et on laisse tomber Napoléon du coup.
Ah, surtout pas, et encore moins à Ajaccio, où on le croise vraiment à tous les coins de rue. Donc là, on est sur le cours Napoléon, ça s'invente pas, et on va en direction de la maison Filidori pour goûter la pâtisserie Le Napoléon.
Bonjour, je suis la journaliste d'Europe 1.
C'est tout simplement, c'est un chausson à la frangipane. À la pousse, il ressemblait à un bicorne et je lui ai trouvé son nom, c'est le bicorne napoléonien.
Alors c'est quoi l'histoire de ce gâteau Le Napoléon ?
C'est un gâteau qu'a inventé mon oncle, un gâteau qui vient de Lyon. Je l'ai ramené à la sauce ajaccienne.
C'est une pâtisserie auquel vous êtes peut-être attaché.
Ah oui. C'est pourquoi vous dites ça ? Parce que je... J'ai les yeux qui brillent quand je dis ça. On y va ? On les met au four ? Allez.
Donc je croque. Hein. C'est bien moelleux. On sent bien le sucre. Et le croquant un peu. Allez, je reprends un croque. Hein. Tant qu'à faire. On fait tout de A à Z en journalisme.
Voilà, Sébastien, professionnalisme
bah oui,
et implication. Évidemment. Bon, c'est vrai que c'était délicieux. Napoléon lui-même aurait sans doute apprécié.
Voilà la folie Napoléon sur ses terres natales à Ajaccio avec Romane Hoquet. Et pour en parler, nous sommes à présent en ligne avec l'adjoint au maire d'Ajaccio, Pierre Pugliesi. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'adjoint au maire en charge du tourisme. On a bien compris en écoutant le reportage que Napoléon attire des touristes. C'est un argument pour vous, un argument touristique ?
Oui, absolument. C'est un argument touristique très fort, très important. Ajaccio, aujourd'hui, se réapproprie complètement le mythe impérial, se réapproprie complètement l'enfant chéri du pays, puisque, vous le savez, 250e anniversaire oblige, nous fêtons cette année la naissance de l'empereur à Ajaccio pendant ses journées napoléoniennes autour du 15 août.
Voilà, ça s'est passé il y a quelques jours avec de grandes célébrations.
Alors oui, nous avons eu 3 jours de célébration puisque sont venus des 4 coins d'Europe près de 700 participants pour reconstituer défilés, escarmouches, batailles, balles. Et c'était 3 journées vraiment très importantes pour la ville et pour marquer définitivement Ajaccio dans le concert des villes impériales.
Ouais, alors vous dites la ville se réapproprie la figure de Napoléon parce qu'on l'avait un peu oublié ?
Je pense que la ville l'avait un peu oublié, mais pas que la ville, je pense que la France l'avait un peu oublié. Et je crois que cette année, un certain nombre de manifestations relativement importantes autour de la figure de l'empereur auront lieu. D'ailleurs, en fin d'année, aux Invalides aura lieu une soirée dédiée à l'empereur. Ouais. Donc c'est une année vraiment importante. Je crois qu'il y a une prise de conscience pour non seulement l'homme qui fut, le militaire qu'il fut, mais surtout ce qu'il a laissé à la France et bien au-delà d'ailleurs.
Pourquoi on l'avait oublié ? Parce que c'était pas très à la mode de célébrer la mémoire d'un empereur en France ? C'était mal vu ?
Je crois que c'est pas très à la mode de célébrer la mémoire de ceux qui furent par le passé dans notre pays. Je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier. Pourtant, ce sont nos racines communes, puisque nous l'oublions pas, Napoléon a été quand même l'instigateur donc du Code civil et de nombreuses institutions encore aujourd'hui qui structurent notre société.
Alors, qu'est-ce que vous faites à Ajaccio justement pour jouer à fond sur ce tourisme napoléonien, on va dire ?
Eh bien écoutez, nous organisons bien sûr autour du 15 août ces fameuses journées napoléoniennes depuis donc maintenant 3 ans,
d'accord,
3 années, donc au cours desquelles vous avez vu reconstitution de bataille, balles, défilés, escarmouches, soirées dansantes, donc une proposition d'activités qui sont diverses et variées, avec un bivouac où les personnes dorment sous la tente et puis vous pouvez venir participer à des activités pour les grands et les petits, mais pas que. Parce que toute l'année, nous organisons du 1er janvier au 31 décembre des petites manifestations, alors de moins grande ampleur, bien sûr, mais des petites manifestations qui rappellent des faits importants, des moments importants. Ainsi, début octobre, nous aurons la reconstitution du retour d'Égypte à Ajaccio. Voilà, nous allons organiser également pendant les fêtes de la Toussaint, donc pendant les vacances scolaires, sur le premier week-end des vacances scolaires, une grande soirée, trois grandes soirées plutôt, son et lumière, donc autour du thème la famille des Bonaparte, au cœur de la ville d'Ajaccio, avec une déambulation son et lumière proposée aux participants. Et puis, en fin d'année, le 2 décembre, la reconstitution du sacre de Napoléon en D'accord. la cathédrale d'Ajaccio.
Oui, donc ça revient quand même assez souvent. Vous pensez qu'il peut y avoir des touristes qui ont envie de venir à Ajaccio uniquement parce que c'est la ville de naissance de Napoléon Bonaparte ?
Alors, vous savez, traditionnellement, il y a des gens, bien sûr, qui viennent à Ajaccio, pas que pendant l'été, bien sûr, au printemps ou à l'automne, pour visiter monuments, musées, et puis la maison Bonaparte. Mais cette année, nous avons eu vraiment, autour de ces journées napoléoniennes, un engouement que nous n'avions pas perçu les années précédentes, un engouement pour venir participer spécialement à ces 3 journées.
D'accord.
Et je vous dis, parce qu'il y a aussi des activités qui sont proposées pour les grands et pour les petits.
Et c'est une figure en plus, Napoléon, qui est connue dans le monde entier, c'est pas seulement les touristes français.
Vous avez absolument raison. Napoléon est un mythe, est devenu un mythe. Et ce mythe, il s'est approprié dans l'ensemble du monde entier. Nous avons eu cette année au printemps une délégation de tour opérateurs chinois qui sont fortement intéressés pour créer un circuit touristique démarrant à Ajaccio et traversant la France, les villes emblématiques, les routes emblématiques de France et allant jusqu'en Belgique, à Waterloo. Donc vous voyez.
Donc vraiment un voyage autour de la figure de un voyage qui est vraiment construit autour de la figure de Napoléon alors.
Complètement, complètement. Donc nous sommes en train de travailler avec ces tour opérateurs et les cités napoléoniennes. Hein, pour que ce projet puisse devenir réalité.
Pour les touristes chinois. Donc, c'est donc ce tourisme napoléonien dont on parle donc à Ajaccio. Merci beaucoup, Pierre Pugliesi, d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'adjoint au maire d'Ajaccio en charge du tourisme. Très bon week-end à vous.
Merci également.
Et dans un instant, nous poursuivons notre voyage sur Europe 1 avec une quatrième étape. On va prendre la mer. À tout de suite. Suite de notre voyage à travers l'île de beauté, nous sommes en Corse aujourd'hui jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Roman Oké, notre reporter qui a parcouru la Corse tout au long de la semaine. Roman, vous étiez à Ajaccio tout à l'heure.
Oui, exactement.
Et on va se diriger vers votre quatrième étape cette fois. Vous avez pris le bateau, vous avez pris la mer. On réécoute votre reportage.
Alors ce matin, Sébastien, nous allons prendre le large et découvrir l'un des trésors de la Corse, le corail rouge. Rendez-vous donc avec Jean-Philippe Giordano. Ils sont seulement 7 à être autorisés à pêcher le corail rouge en Corse. Son bateau nous attend dans le port de Pianottoli, au nord de Bonifacio.
Bonjour, Jean-Philippe, enchanté.
Alors voilà l'archange, il est là, il vous fait un sourire.
C'est le nom de votre bateau?
C'est le nom du bateau.
Et c'est parti pour?
Avec deux fois une demi-heure de route, allez, on va dire 4h quoi.
On y va, je vous suis?
Allez, c'est parti, Romain.
Alors, nous quittons tout doucement la splendide baie de Figari, cap à l'ouest, 10 000 marins plus tard, l'équivalent de 2 km. Voilà les zones de pêche, là où les courants sont forts, propices au corail. Aux commandes, Jean-Philippe, les yeux rivés sur le sondeur.
Quelquefois, je peux sonder pendant des heures, tant que je ne trouve pas de roche, et surtout de roche appropriée à ma recherche, jusqu'à ce que... Voilà, vous le voyez apparaître le rocher, là? Allez.
Là, ah oui, d'accord.
Ça y est, il monte, ça y est, voilà.
C'est un peu votre carte au trésor.
C'est bien ça, c'est exactement ça, oui.
Une carte au trésor que ce fils de scaphandrier affine depuis 36 ans, un vrai secret de corailleur.
Alors, quelle est la particularité de cette pêche, Romane?
Eh bien, comme tout trésor, le corail rouge se mérite. Et même s'il n'est pas menacé, il faut le préserver. C'est pour cela que la pêche se fait en profondeur. Jean-Philippe descend obligatoirement en dessous de 50 mètres. Un métier dangereux qu'il ne peut pas faire seul. Alors Lisa, marin, assure sa sécurité en surface.
30 secondes. Je vais lui lancer la gueuse, donc c'est le gros plomb. Pour qu'il aille le recevoir, c'est sa ligne de vie. Par contre, là, je vais être resté concentré parce qu'il va falloir que je fasse pivoter le bateau et faire toutes mes manœuvres.
Jean-Philippe, tu me reçois? Alors, sous nos pieds, on l'entend, quelques bulles, Jean-Philippe, dans une eau à 12 degrés. Il fait sombre, lampe et marteau à la main. Il cueille uniquement le corail de plus de 7 mm de diamètre. Et après 2 heures de plongée, la surface.
Donc là, c'est une bonne pêche aujourd'hui? Il y a combien en quantité?
Voilà, entre 1,5 kg, 1,8 kg, bien tenaillé, bien sec. Ouais, c'est une belle pêche. Là, je vais faire donc un nettoyage, on appelle ça un tenaillage. Voilà, j'enlève les morceaux de pierre avec ma tenaille. Ce tenaillage aussi nous permet d'évaluer la qualité du corail. Alors vous voyez, si je tape avec ma martelette, vous entendez ce bruit? On voit déjà, c'est de la branche très épaisse. La qualité du corail est pure. C'est une très belle qualité, c'est sain.
Direction maintenant l'atelier, parce que Jean-Philippe est le seul à pêcher et tailler lui-même son corail. Et tout commence par une bonne scie diamantée et quelques coups de crayon à papier sur la branche.
On peut bien remettre une queue ici, si on fait un poisson. Ici, je vois surtout un hippocampe dans cette branche. Sa queue va se terminer ici, ici, là, et là, j'ai la tête.
Et
nous voilà.
Et on travaille toujours le corail avec de l'eau?
Toujours avec de l'eau, pour pas que ça chauffe, autrement c'est un phénomène de claque. Et on voit que la matière, vraiment, regardez ce rouge sang de bœuf, c'est canon.
Ah oui,
et
dès que c'est illustré, vraiment.
Voilà, c'est merci Dame Nature, merci Bonifacio.
Ce corail, pêché dans l'obscurité des fonds marins, se retrouve maintenant sous les lumières de la boutique à Bonifacio. Alors comme je voulais vous ramener un petit souvenir de ma semaine, Sébastien, voilà, j'ai pensé à vous, je suis allée y faire un tour. Plus de 5000 modèles de pendentifs, bracelets, colliers rouges flamboyants. Une découverte pour cette touriste du Pas-de-Calais.
J'avais demandé le noir, là, avec les corails.
Oui.
Ça vous plaît?
Oui, beaucoup. Beaucoup, vraiment. Ils sont magnifiques. Puis la couleur, elle est particulière, je trouve.
Voilà. De bœuf de Bonifacio.
Tout à fait. En le regardant, en regardant mon bijou que j'aurais acheté ici, je penserai à la Corse. Ça, c'est sûr et certain.
Ça vous rappellera les vacances?
Ça me rappellera avec nostalgie, surtout.
Ouais. Alors, on va quand même parler du prix. Comptez entre 15€ le petit bracelet jusqu'à 7000€ pour un très très beau collier. Moi, j'ai choisi un pendentif en forme de poing, une tradition ici en Corse. Il paraît que ça éloigne le mauvais œil et ça règle aussi les problèmes de dents.
Et nous sommes en ligne avec Jean-Pierre Carducci. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le représentant du comité des pêches à la commission régionale du corail. On a entendu le reportage de Romain Noquet sur cette pêche au corail rouge jusqu'à 50 mètres de profondeur. C'est une ressource extrêmement précieuse pour la Corse, j'imagine.
Oui, absolument. Donc la pêche est autorisée pour nous de 50 à 90 mètres.
De 50 à 90 mètres de profondeur. C'est une ressource qui est rare, qu'il faut préserver.
L'espèce n'est pas en danger. Elle est en danger dans la zone accessible humainement. Entre le 50 et le 90, là maintenant, il y a pratiquement, la ressource est pratiquement pas zéro, mais pas loin. Mais dans le reste de la Méditerranée, un petit peu partout, et dans les profondeurs plus importantes, et du corail, il y en a à foison.
Il existe, vous disiez, la pêche est extrêmement réglementée. Il y a aussi du braconnage.
Ah oui.
C'est quoi, c'est des vacanciers qui vont essayer d'en récupérer, par exemple? Ou c'est plus industrialisée?
Il y a plusieurs facteurs dans le braconnage. Hein. Vous avez des gens qui sont... Bon, la plongée s'est vulgarisée depuis plusieurs années. Donc, les profondeurs de 30-40 mètres sont accessibles à pratiquement monsieur tout le monde. Et ce petit corail que nous refusons de prendre, nous, le professionnel, et voilà, il est pris par ces gens qui vont faire une plongée avec un club, qui vont voir le site et puis qui reviennent avec un bateau et qui enlèvent... si chacun enlève une branche, vous voyez, ça va vite. Hein. Et après, il y a d'autres braconnages, des gens qui n'ont pas d'autorisation de pêche légale comme nous. Et après, ouais, il y a des gens qui viennent en vacances de l'étranger, des Espagnols, des Italiens, qui viennent avec de gros zodiacs, des bateaux, et puis qui discrètement plongent plus profond que ça et prélèvent.
Et donc là, c'est une pêche illégale, beaucoup plus organisée, là.
Bien sûr. La législation nous défend mal dans ce cas-là parce que l'État ne peut intervenir que s'ils sont pris sur le fait, c'est-à-dire avec le corail dans le bateau, à la main ou dans le panier. C'est assez difficile à savoir qu'aussi qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux pour défendre les côtes corses. Les moyens sont de plus en plus réduits.
Pour lutter contre cette pêche illégale, les moyens sont insuffisants?
Absolument, mais pas que pour la pêche, mais en particulier pour nous, oui.
Il reste combien de corailleurs en Corse aujourd'hui?
Alors, la dernière commission, on était 9. Là, ça risque de diminuer fortement parce que l'administration nous impose maintenant un marin supplémentaire classifié. Déjà, c'est très, très difficile d'avoir un marin classifié sur le bateau. Maintenant, s'il faut en avoir deux, ça va réduire fortement les autorisations.
Classifié, ça veut dire quoi? C'est habilité à plonger aussi profond?
On a un veilleur et il y aura un deuxième plongeur à bord qui doit être capable d'aller porter secours au scaphandrier qui est dans l'eau.
Ça paraît extrêmement impressionnant de plonger dans des profondeurs aussi abyssales. C'est une ambiance extrêmement particulière, j'imagine, de se retrouver sous l'eau aussi profond. C'est très sombre.
Tout dépend de la profondeur, tout dépend des eaux. Il y a des eaux qui sont plus chargées que d'autres. J'ai plongé dans le détroit de Gibraltar très profond. On ne voit pas l'eau, on se croirait dans l'air, c'est du cristal.
Ah oui.
Par contre, il y a certains endroits dans le Maroc où j'ai travaillé aussi devant des ouèdes, on ne voit pas la montre. Moi, je plonge depuis très longtemps en Corse. Il y a des endroits où c'est un petit peu plus trouble que d'autres, mais à partir de 70-80 mètres, on utilise des projecteurs qui font ressortir le rouge du corail. Parce que tout le monde sait que le rouge disparaît.
Dans l'eau.
Dans l'eau, ouais.
Et ce corail, on le trouve partout autour de la Corse où il y a vraiment quelques endroits privilégiés?
Déjà, il faut qu'il y ait de la roche. Donc, les endroits où il y a du sable, forcément, il n'y en a pas. Mais
d'accord.
Après, bien sûr, il y a des endroits qui sont plus porteurs que d'autres. Tout ça, c'est une histoire de nourriture. C'est un animal. Donc, il se nourrit essentiellement de ce que lui amène le courant. C'est ça qui fait que certains endroits sont plus fournis que d'autres.
Voilà, et ça alimente ensuite ces artisans qui, dans leurs ateliers, en font des bijoux qu'on a retrouvés donc, dans le reportage de Roman Hockey. Merci beaucoup, Jean-Pierre Carducci, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Au plaisir, pas de souci.
Bon week-end.
Bon week-end à vous aussi, au revoir.
Et dans un instant, on retrouve Roman Hockey et on se dirige vers la cinquième et dernière étape de notre voyage. Vous allez voir, on va finir en beauté.
Europe 1, vous êtes où cet été ?
Et nous arrivons à présent à la dernière étape de notre voyage à travers la Corse. Aujourd'hui, après avoir plongé en mer à la pêche au corail rouge, nous allons aller à la plage. C'est un petit peu plus classique. Roman Hockey, vous êtes toujours là ?
Oui, bien sûr.
Vous êtes allé voir la plus belle, forcément.
Forcément, je ne pouvais pas partir de la Corse sans passer par Palombadja, qui est considérée comme l'une des plus belles, peut-être la plus belle plage de France.
Et on réécoute votre reportage.
Alors Sébastien, pour finir la semaine en beauté, vous l'entendez, je vous invite sur la plage de Palombadja, au sud de Porto Vecchio. Un lieu à part, un coin de paradis bordé par les dunes où les couleurs sont éclatantes. Des pins gigantesques, des rochers ocre qui plongent dans une eau cristalline, une mosaïque sous les rayons du soleil. C'est l'une des plus belles plages de France, alors forcément, l'été, la fréquentation explose.
Waouh, ça a l'air de faire rêver, on l'imagine bien cette plage. C'est vraiment la plage des cartes postales. C'est devenu un lieu incontournable en Corse ?
Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ce matin, je vous propose de retracer l'histoire de ce lieu. Pour ça, on part sur l'ancien sentier qui reliait Porto Vecchio à Palombadja. Nous sommes dans les années 60 avec la petite Gabi, 16 ans.
Très verdoyant.
Oui, en effet. Et puis santé. Ça sent un peu la menthe, ça sent un peu la nez, puis t'as ce qui est notre marjolaine.
Ce sentier, on l'empruntait à une occasion particulière, vous me dites ?
Oui, ce sentier, on l'empruntait pour le pique-nique du lundi de Pâques, la Mirandelle, comme on l'appelait. Et les gens descendaient sur Palombadja et sur les rochers. Bien sûr, ils emportaient le casse-croûte, hein, vous pensez bien, il y avait le prisoute, il y avait du vin, l'eau qu'ils prenaient en passant sur leur chemin. Et c'était vraiment un moment exceptionnel.
3 heures de marche, les bras chargés de victuailles, et là, bienvenue à Palombadja, un nom en souvenir des palombes, ces oiseaux qui vivaient ici. Ça vous donne déjà un indice, alors oubliez le brouhaha de la foule et laissez Gabi vous raconter.
Regardez cette merveille.
Ça vous fait toujours autant d'effet.
D'autant plus qu'après ça éveille des souvenirs.
Justement, est-ce qu'on ne marcherait pas un peu dans l'eau pour que vous me racontiez vos souvenirs ?
Vous arriviez dans un endroit pratiquement désert. Voilà, tout était calme, c'était vraiment un endroit, ça ressemblait au paradis.
Et il n'y avait rien, personne ?
Il n'y avait personne, il y avait juste une paillote. C'était celle de M. Terrasson, l'oncle de Marc Terrasson que vous verrez tout à l'heure.
On va aller voir, voilà, en effet.
On va aller voir.
Bonjour. Ah, enchanté. Roman, vous êtes Marc.
Ouais. Les pains, même les pains.
On venait là, les pains.
Tu te rappelles, les pains dans l'eau.
Dans l'eau, oui.
Alors en 1959, l'oncle de Marc ouvre la première paillote de la plage. Quelques frigos, une plaque chauffante artisanale. En fait, c'était surtout pour les habitants de Porto Vecchio. Mais voilà, les collines se couvrent peu à peu de villas, d'hôtels, de clubs de vacances. Et la paillote familiale va changer de dimension.
La route venait jusque là. Donc elle descendait jusqu'ici, goudronnée. Entre 73, 74 années.
Ça a dû changer beaucoup de choses, qu'il y ait une route goudronnée
accessible. Accessible pour tout le monde, pour les touristes, pour les fournisseurs qui pouvaient apporter les marchandises. Tout à fait. Et en même temps, elle desservait la plage.
Alors cette route, elle n'existe plus aujourd'hui. Depuis, le Conservatoire du Littoral a repris la main. À la place, un parking bondé, dissimulé tant bien que mal derrière la verdure. Par là, un plan d'eau bordé de joncs. Pierre, la cinquantaine, redécouvre la plage de sa jeunesse.
Plus de 20 ans que je ne suis pas venu à cette plage. C'est moins dramatique que je le pensais. Vous voyez, je découvre la plage en même temps que vous. Les dunes ont l'air de tenir le coup. Les lys sont réapparues sur les dunes.
Vous reviendrez maintenant ici ?
Non, il y a beaucoup trop de monde. Vous imaginez que j'habite quasiment à la plage, je n'y vais pas. Après, j'ai beaucoup de mal à accepter le changement, je sais. Il y a 20 ans, je disais, les cartes postales mentent. Ben là, elles mentent beaucoup hein, quand même.
Ouais, voilà, donc ce lieu, mais il reste magnifique évidemment, mais il ne ressemble plus totalement à ce qu'ils ont connu à l'époque, on l'entend. Roman, hormis Pierre, est-ce que les locaux fréquentent quand même toujours cette plage ?
Alors certains oui, mais à vrai dire c'est surtout une question de génération, parce qu'à Palombadja j'ai aussi trouvé Catherine, 28 ans, mais seulement 7 pour son premier bain.
Vous voulez qu'on se mette où du coup?
Peut-être près des rochers, sur les rochers?
Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît justement ici?
L'odeur des pins. C'est Ça veut dire qu'on pourrait me bander les yeux et m'emmener sur cette plage, je saurais qu'on est à Palombadja.
Vous venez à la plage ici l'été?
Oui, mais comme je disais, quand même, vu que ma fille a un peu du mal avec le sable, mais une fois, j'espère que ce cap sera passé, oui, on reviendra avec elle.
Qu'est-ce que vous lui diriez si vous deviez lui présenter la plage?
J'espère que plus tard, tu vivras nos moments qu'on a vécu ici et que tu sauras autant apprécier ce trésor.
Un trésor, un héritage même, et pour le transmettre c'est simple, asseyez-vous vous aussi sur ce rocher, à l'ombre d'un pin, respirez et contemplez le paysage.
Et effectivement, elle a l'air magnifique, cette plage de Palombadja qui est considérée peut-être comme la plus belle plage de France. Reportage signé Roman Hockey. Dans un instant, on continue cette discussion sur le tourisme, justement le tourisme en Corse, avec Daniel Charavin, il est directeur général de l'agence du tourisme de Corse. Il est en ligne avec nous dans un instant. On est en ligne à présent avec Daniel Charavin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'agence du tourisme de la Corse, merci d'être avec nous. On a entendu ce reportage donc, sur la plage de Palombadja. Comment on gère ce pic touristique au cœur de l'été? C'est quand même une affluence à gérer.
Alors effectivement, mais une affluence quand même qui reste relativement modérée sur l'ensemble de l'île, puisque nous accueillons en pointe 400 000 personnes, ce qui, sur une île qui fait 1000 km de côte, est relativement faible globalement. Ceci dit, il y a quelques spots qui sont d'ailleurs largement véhiculés par les médias et dont Palombadja, effectivement.
Qu'est-ce qui limite? C'est le côté insulaire de l'île qui finalement limite le nombre de touristes qui peuvent être accueillis?
Oui, c'est le côté insulaire et aussi l'offre et aussi la volonté politique qui consiste aujourd'hui à ne pas nécessairement travailler en tout cas viser un tourisme de masse, que d'autres îles font mieux que nous et savent mieux faire pour être plutôt dans un tourisme plus de niche. Et certes, effectivement, vous avez raison, l'été, c'est plutôt un tourisme familial et qui a l'habitude plutôt d'aller à la plage, effectivement, ou en rivière ou à la montagne.
Et c'est ce qu'on visite justement aujourd'hui tout au long de cette émission, cette plage de Palombadja qui est un peu la plus connue. C'est la plage vraiment carte postale. On l'a entendu dans le reportage, les locaux n'y vont plus pendant l'été parce qu'il y a énormément de monde et on peut les comprendre, ils en profitent toute l'année. Comment justement on fait pour gérer à la fois l'afflux de tourisme sans que ça dérange trop la tranquillité de tous les gens qui vivent autour toute l'année?
Alors d'abord, le tourisme est le secteur majeur effectivement de l'île et pratiquement tout le monde vit peu ou prou de cette activité en direct ou indirectement. Ceci dit, la tradition des Corses n'est pas vraiment l'été, en tout cas, est plutôt d'aller dans les villages, de refréquenter leur propre village. Tout Corse a un village. Mmh. Donc, c'est pas vraiment une tradition de rester à la plage. Il y a très peu de Corses qui restent l'été à la plage.
Voilà, c'est fuir un peu justement les endroits où il y a du monde et on va se réfugier dans les villages corses qui sont magnifiques et où il y a un petit peu moins de monde. Quel est l'état de la fréquentation de l'île cette année? Est-ce que ce sera une bonne année pour les professionnels du tourisme?
Oui, ce sera. Disons, nous, l'année, contrairement à d'autres stations ou d'autres lieux touristiques français, ne se limite pas à la fin des vacances scolaires. Hein. On a une année qui se prolonge pratiquement jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc les bilans, on les fait plutôt à la fin de l'année. Ça sera une année à peu près comparable à celle de l'an dernier.
D'accord, donc satisfaisante pour tout le monde. Avec une eau, alors on en parlait ces dernières semaines, la température de l'eau de la mer en Corse qui a battu des records, 28 degrés cet été pour se baigner, c'est magnifique.
Oui, et encore une fois, vous avez des plages, effectivement, des spots très, très, très connus et très fréquentés, mais vous avez sur les 1000 km de côte des plages juste à côté, quelquefois à un quart d'heure, qui sont désertes. Hein. Donc, effectivement, là, c'est une question de régulation ou surtout d'image qu'on peut donner. Tout le monde a envie d'aller sur les images d'épinage, je dirais. Il y en a bien d'autres qui sont aussi belles, qui sont beaucoup moins fréquentées. Ceci dit, les gens vont beaucoup en Corse. Ils vont en fait le matin en rivière et l'après-midi à la plage. C'est en gros le schéma d'un tourisme familial sur l'île. Donc on peut faire à la fois la montagne et la mer dans une même journée, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui dans les îles de Méditerranée.
Ouais, le tourisme à la montagne, c'est quelque chose que vous développez aussi sur l'île?
Il se développe beaucoup. Hein. Il se développe beaucoup. Alors soit par des gens qui sont en résidence au bord de l'eau, parce que c'est là qu'il y a le plus d'offres hôtelières. Et à ce moment-là, c'est des excursions, des randonnées. Effectivement, la Corse est vraiment une île totalement adaptée à un tourisme actif et pas simplement contemplatif des merveilleux paysages, et plus sportif, voire sportif, donc les randonnées. La nouvelle, on vient de lancer une nouvelle grande traversée de la Corse après le célèbre GR20, la GT20, qui est une traversée en vélo, et tout ce qui est pratique douce, tout ce qui est développement d'un tourisme durable, c'est vraiment l'axe qu'a pris la Corse, un axe concurrentiel. On veut être l'île verte de la Méditerranée.
Oui, avec évidemment des villages magnifiques, des espaces très, très, très préservés, sans beaucoup de construction, ce qui est un atout formidable pour la Corse.
Ben, notre atout, c'est effectivement touristes plus résidents, 700 000 personnes sur une île qui était 1000 km de côte. Je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui sont entre Barcelone et Gênes.
Et c'est ce que nous disait aussi Romane, ok. Tout au long de la semaine, elle a pu visiter des lieux qui sont très préservés du tourisme de masse et où elle n'a pas croisé tant de monde que ça, même en plein mois d'août. Merci beaucoup, Daniel Charavin, d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence du tourisme de la Corse. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée à tous.
Romane, ok, vous êtes toujours là. Vous confirmez ne pas avoir croisé tant de touristes que ça, finalement, cette semaine?
Oui, c'est vrai que j'ai été assez surprise. J'appréhendais un petit peu une semaine en plein mois d'août en Corse, ne serait-ce qu'au niveau des embouteillages. Finalement, ça a été. Après, ça dépend vraiment des endroits. Palombaggia reste un peu un endroit à part où vraiment il y a beaucoup de monde. Mais c'est vrai que dans le Niolo ou au Cap Corse, effectivement, c'était encore très tranquille pour un mois d'août.
Vous y retournerez?
Oh, avec plaisir. Et cette fois, sans mon micro, juste sur la plage.
Juste pour profiter. Merci beaucoup pour cette semaine, Romane, ok, et pour ces 5 étapes magnifiques à travers la Corse. Nous bouclons ici notre voyage et cette saison estivale de voyage tous les samedis et tous les matins dans la matinale d'Europe 1. Je vous souhaite un très bon week-end lundi. Ne manquez pas la rentrée d'Europe 1, bien sûr. Bon week-end.